Arthur Bernheim, Le mystère du train bleu. Chapitre 1. Le roi des détectives. Lorsque, abandonnant l'avenue des Ternes un peu avant de franchir le pont qui surplombe le chemin de fer de Ceinture, vous pénétrez dans l'avenue de Verzy, vous êtes tout surpris de vous trouver tout à coup, au sortir de l'une des artères les plus animées du Nouveau Paris, dans une cité calme, paisible, intime et charmante. Tandis qu'à droite s'élèvent de vastes immeubles de construction récente et que l'on devine doués de tout ce qu'on est convenu d'appeler le confort moderne, vous remarquez sur votre gauche plusieurs petits hôtels enfouis, l'été sous la verdure. Alors, encore assourdi par le tintamarre de la rue, par les rugissements des cornes des tramways et d'auto, par le fracas métallique des camions et toutes les rumeurs prolongées qui servent en quelque sorte de base à cette symphonie aussi discordante qu'ininterrompue, vous vous trouvez tout à coup, et pour votre vif agrément, doucement baigné par une atmosphère de silence, qu'à la belle saison trouble seulement le spirituel pépiment des moineaux. Vous ne respirez plus ces âcres relents d'essence et d'huile, ni cette impalpable poussière qui pénètre dans votre larynx, dans vos poumons et vicie votre sang comme elle flétrit les feuilles et tarit la sève des arbres qui ont eu l'infortune d'être transplantés dans la grande cité. Vous éprouvez au contraire une sensation de libération, de détente, de bien-être, et dans votre joie de vous être enfin évadé d'une zone dangereuse, vous vous dites qu'il doit faire bon vivre ici. Vous ne vous trompez pas. L'avenue de Verzy est l'un des rares et derniers coins de Paris où, TSF à part, un travailleur intellectuel peut encore se livrer à son labeur quotidien sans être obsédé par le vacarme urbain, et dormir la nuit sans être contraint de se mettre du coton dans les oreilles ou de s'enfouir la tête sous son oreiller. C'était dans une de ces agréables demeures dont l'architecture extérieure rappelait un peu celle d'un de ces jolis cottages normands tels qu'on en voit sur les plages du Calvados et de la Manche que Chantecoq, le roi des détectives, avait élu domicile. Ce jour-là, dans une salle à manger fraîche, avenante, avec ses tentures claires et son ameublement tout en Louis XV provençal, il achevait de déjeuner en famille, c'est-à-dire avec sa fille, la délicieuse Colette, sur laquelle, depuis la mort déjà lointaine de sa femme, il avait reporté toute l'affection dont il était capable, et son gendre, Jacques Bellegarde, le reporter déjà fameux du Petit Parisien. Une quatrième personne assistait à ses agapes. C'était un petit bonhomme, mince, sec, étriqué, aux faciès de clown, aux allures de jockey, au regard fureteur, sans cesse en éveil, au visage parcheminé, ridé, et auquel il était d'autant plus difficile de donner un âge que chaque fois, fait assez rare d'ailleurs, qu'il lui arrivait de sourire, sa physionomie prenait tout à coup une expression de jeunesse et de gaieté qui le rendait immédiatement sympathique à tous, et même à toutes. Depuis un an, il remplissait auprès de Chantecoq les difficiles et délicates fonctions de secrétaire. On ne le connaissait que sous le nom, ou plutôt le surnom de Météore, qu'il devait à sa faculté d'apparaître et de disparaître avec une rapidité qui tenait du prodige. D'où venait-il? Quel était son passé? Ses origines? Comment le grand homme l'avait-il connu? À la suite de quelles circonstances lui avait-il accordé mieux que sa confiance, c'est-à-dire son amitié? En dehors de Chantecoq, nul n'en savait rien, pas même M. et Mme Bellegarde, qui se seraient bien gardés d'interroger le détective à ce sujet, car mieux que personne, il savait que celui-ci, lorsqu'il ne parlait pas, avait de graves raisons de se taire, et il respectait tellement ses secrets qu'il se fût bien gardé de poser la moindre question à ce météore, qui d'ailleurs manifestait envers son patron les sentiments du plus profond dévouement et de l'attachement le plus sincère. Le dessert terminé, Colette demandait « Père, est-ce que nous prenons le café dans ton studio ?»«
Non, pas aujourd'hui, ma chérie, » répliquait le détective, en enveloppant sa fille d'un long regard de tendresse. Et il ajouta « Oui, j'attends une visite, que je crois assez importante pour ne pas la différer. Voilà pourquoi je vous demande à ton mari et à toi de savourer ici l'excellent mocha que notre cher cordon bleu Marie-Jeanne n'aura pas manqué de nous préparer.
Oh, nous serons très bien ici, » s'empressait de déclarer Jacques Bellegarde avec cordialité. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un timbre résonnait dans le vestibule voisin.
« Oh, serait-ce déjà la visite en question ?» s'écriait Colette.
« Non, je ne pense pas, » fit Chantecoq. « Le rendez-vous est pour 14 heures et il n'est que 13h30. »
L'un des battants de la porte d'entrée s'ouvrait, livrant passage à un valet de chambre à la figure franche, ouverte, à la carrure robuste, et qui semblait beaucoup plus fait pour porter une vareuse de sous-officier qu'un tablier blanc de domestique. Il apportait sur un plateau une lettre qu'il présenta à Chantecoq, qui s'en empara. L'enveloppe, dont l'adresse était tapée à la machine à écrire, portait cette mention, soulignée d'un trait à l'encre rouge, rigoureusement urgente et personnelle. Le détective prit un couteau avec lequel il fendit l'un des côtés de l'enveloppe, d'où il retira une double feuille de papier pliée en quatre qu'il déplia aussitôt. Son visage, au profil frappé en médaille, au menton volontaire et au regard d'une étonnante acuité, se tendit aussitôt comme si son attention se concentrait sur un seul objet, une seule pensée. Sa lecture terminée, il grommela entre ses dents « Voilà qui n'est pas banal !» Puis il appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Quelques secondes s'écoulèrent, au bout desquelles le valet de chambre reparut, apportant sur un plateau beaucoup plus vaste, non pas une lettre, mais quatre tasses, un sucrier, une cafetière. Tous exhalaient ce parfum suave entre tous qu'est celui d'un café merveilleusement réussi. Lorsque le domestique, lentement, avec précaution, eut déposé son précieux fardeau sur la table, Chantecoq l'interpella. « Dites-moi, Gautret.
« Monsieur ?»«
Oui, qui, tout à l'heure, a apporté cette lettre ?»«
Un commissionnaire, » répliquait le serviteur, avec la précision, la netteté d'un ancien soldat.
Avait-il sa médaille?
Oui, monsieur.
Vous n'avez pas pu repérer son numéro?
Oh non, monsieur. J'aurais pu le faire, mais j'aime mieux vous dire que j'y ai pas pensé.
Et son signalement?
Oh, de petite taille, les cheveux grisonnants, ainsi que la barbe assez fournie. Du gros, oh, d'énormes sourcils en broussailles.
Donc camouflé, lançait le détective à son secrétaire, qui griffonnait déjà des notes sur un carnet que prestement il avait tiré de sa poche. Et Gaudret poursuivait,
si distinctif, il boite légèrement de la jambe gauche, ce qui l'empêche pas de monter à bicyclette, vu que...
Oh, c'est bien, je vous remercie, arrêtait le détective. Le valet de chambre esquissa un geste qui était comme l'amorce d'un salut militaire. Et faisant demi-tour, il regagna le vestibule. Chantecoq demeura un instant silencieux, le front penché en avant, le regard fixé sur son assiette. Colette s'empara de la cafetière, remplit les tasses, et après avoir adressé à son mari un bref coup d'œil, il n'était pas exempt d'inquiétude. Elle fit, en déposant une tasse devant son père,
« Deux morceaux de sucre, père ?»
Le limier eut un simple signe de tête affirmatif. De plus en plus anxieuse, Madame Bellegarde plongeait dans le sucrier une pince en argent, lorsque brusquement Chantecoq releva la tête. Instantanément, sa figure avait repris son expression de belle humeur,
et d'une voix pleine d'entrain, et même toute joyeuse, il fit « Oui, pardonnez-moi cette légère absence, surtout, croyez pas qu'il me tombe une tuile, non, loin de là. Depuis quelque temps, les affaires sensationnelles faisaient plutôt défaut, n'est-ce pas, Météor ?»« Oh oui, patron, » appuya le secrétaire avec une grimace des plus significatives, qui lui permettait le tache caoutchouc extensible dans lequel ses joues semblaient avoir été taillées. Le roi des détectives poursuivait avec animation. Chantecoq sans aventure, Chantecoq réduit à rechercher des valeurs de colliers de perles pour le compte de milliardaires américains ou de compagnies d'assurance. Oh, cela ne pouvait pas durer. Mais en effet, il me tombe aujourd'hui du ciel ou de l'enfer. Je n'en sais rien. Encore une affaire telle que je n'en ai pas eu depuis celle du fantôme du Louvre. Et a priori, il me demande s'il n'est pas appelé à avoir un jour, dans le public, un aussi grand retentissement que celui qu'on ait provoqué, mais démêlé avec feu Belphégor. Est-ce possible? S'exclamait Bellegarde, d'autant plus intrigué qu'il n'ignorait pas que son beau-père ne bluffait jamais. En tout cas, affirmait le détective, elle débute d'une façon plutôt piquante. Oh, après tout, je ne vois pas pourquoi je ne vous la raconterai pas. Depuis longtemps, ma chère collègue, j'ai constaté que je pouvais compter entièrement sur ta discrétion. Quant à vous, mon cher gendre, je crois superflu de vous demander d'oublier en ce moment que vous êtes le plus brillant de nos reporters pour vous souvenir uniquement que vous êtes mon gendre. D'ailleurs, nous avons déjà collaboré, et il se pourrait fort bien qu'un jour ou l'autre, j'eusse encore besoin de vos services. Mais ils vous sont acquis d'avance, s'engageait Bellegarde avec la plus chaleureuse spontanéité. Bien, en deux mots, voici, posait le roi des détectives. Je vous ai dit que j'avais ici, dans mon bureau, à 14 heures, un rendez-vous que je considérais comme très important. Eh bien, voici la lettre que je viens de recevoir. Chantecoq prit la missive qu'il avait serrée dans sa poche de son veston et à haute voix il lut. Monsieur, j'ai appris que vous deviez recevoir chez vous ce jour même la visite de Madame la Comtesse Marie-Thérèse de Rosencart. Sans doute ignorez-vous le but de sa vue démarche. Je vais vous la révéler. Madame de Roscarvel vient vous demander de l'aider à sauver la tête de son amant, Julien Guéret, qui, le 6 mars dernier, a assassiné son mari dans le rapine de Paris-Monte-Carlo, dit Trimbleu, entre Cannes et Saint-Raphaël. Monsieur Chantecoq, j'ai pour vous une grande admiration. Je vous ai suivi de plus près que vous ne le pensez au cours de votre admirable carrière. Je sais qu'avant la guerre, en votre qualité d'agent de la Sûreté Générale, vous aviez déjà acquis, grâce à vos retentissants exploits, une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, après vous être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de guerre, vous avez été mis en sursis d'appel et sous le contrôle du deuxième bureau, auquel j'étais attaché moi-même, vous vous êtes livré à une chasse aux espions qui a achevé de vous classer comme un véritable héros populaire. Après l'armistice, vous avez donné votre démission et vous avez ouvert un cabinet de détectives privés. Votre réputation, solidement établie et basée à la fois sur votre valeur professionnelle et votre noble caractère, vous en valut une clientèle d'élite que vous servez avec autant d'intelligence que de zèle. Je crois donc que mon devoir est de vous mettre en garde contre les menées d'une intrigante redoutable entre toutes et qui, sous ses allures doucereuses, hypocrites, cache une âme abominable, gangrenée par tous les vices et capable de tous les crimes. Tous ceux qui l'ont approchée de près s'étonnent qu'elle n'ait pas été arrêtée en même temps que son amant. Aucun d'entre eux ne doute que ce soit elle
qui lui a conseillé, inspiré, dicté son crime. Bien que, grâce à votre admirable perspicacité, vous soyez capable de percer à jour très rapidement le caractère et les intentions de cette misérable femme, j'ai pensé qu'il ne vous serait point désagréable d'être en possession de ces renseignements avant votre entrevue avec la comtesse de Roscanvel. Je pense encore vous être utile en vous fixant sur son passé, sur ses origines. La comtesse Marie-Thérèse est de naissance extrêmement modeste. Son père, Yves Trégarec, commandait un bateau de pêche à Camaret, et sa mère tenait dans le même port une petite boutique de librairie. Marie-Thérèse, tout enfant, manifestait une vive intelligence et un goût prononcé pour l'étude. Elle était en outre fort jolie. Ses parents, qui fondaient sur elle les plus légitimes espérances, se saignèrent pour 4 membres pour lui donner une instruction de premier ordre. Ils l'envoyèrent dans le meilleur pensionnat de Brest, où elle fut élevée avec toutes les jeunes filles de la haute aristocratie bretonne. Celles-ci la considérèrent d'abord comme une intruse et affectèrent de la tenir en quarantaine. Mais bientôt, leur morgue héréditaire se dissipa sous le charme qui émanait de Marie-Thérèse, et malgré elle, toutes durent s'incliner devant la supériorité physique et intellectuelle de leur jeune compagne. Marie-Thérèse ne tarda pas à devenir la véritable reine du couvent. Non seulement elle était toujours la première de sa classe, mais la gaieté qui l'animait pendant les récréations et les promenades en faisait aussi le bout en train de la maison. Bonne musicienne, douée d'une voix délicieuse, elle chantait tour à tour à ravir les cantiques sacrés ou ses vieilles chansons armoricaines, toutes de poésie mystérieuse et pittoresque. Les religieuses, ses maîtresses, la citaient en exemple à toutes et à tous, acceptaient qu'il en fût ainsi, sans la moindre jalousie, sans la plus légère réticence. Marie-Thérèse Trégarec s'était liée d'amitié avec une jeune fille de son âge, Mademoiselle Jeanne de Rosenvel, fille du marquis et de la marquise, qui possédait aux environs de Loctudie un très beau château où chaque année ils passaient l'été. À l'automne, ils rentraient à Paris où leur fortune très considérable leur permettait de mener grand train, mais ils laissaient leur fille à Brest, préférant ne pas l'initier trop tôt à l'existence mondaine de la capitale. Ils avaient également un fils, Robert, qui, ses études terminées, s'était entièrement adonné au sport, où d'ailleurs il excellait. Une année, Jeanne demanda à M. et Mme de Roscanvel la permission d'inviter son amie Marie-Thérèse à passer une semaine d'août au château. Le marquis et la marquise n'avaient aucune raison de refuser l'hospitalité à une jeune personne aussi accomplie que Mademoiselle Trégarec. Ils n'allaient pas tarder à s'en repentir. Leur fils Robert, qui villégiaturait en famille, tomba éperdument amoureux de Marie-Thérèse. S'apercevant dès ses premières attaques qu'il ne parviendrait pas à en faire sa maîtresse, il ne parla rien moins que de l'épouser. Fureur des parents, mais fureur inutile. 3 mois après, malgré la volonté des siens, Robert, qui avait 24 ans, épousait Marie-Thérèse, qui n'en avait que 17. Le marquis et la marquise maudirent leur fils et lui retirèrent tout subside. Robert s'en soucia d'autant moins que peu de temps avant son mariage, son oncle et parrain, le vieux duc de Haute-Roche, lui avait laissé 4 millions, quittes et nets, de tout droit et de toute charge. Et le jeune ménage put, dans la joie et dans l'opulence, filer un peu le parfait amour. Pendant 5 ans, ce fut, du moins en apparence, le bonheur absolu. Mais quelqu'un troubla la fête. Ce quelqu'un n'était autre qu'un jeune romancier, Julien Guéret, auteur d'un livre à succès, Le secret d'aimer, qu'il avait placé au tout premier rang de la jeune littérature contemporaine. Comment parvint-il à se faufiler dans l'intimité de Robert et de Marie-Thérèse? Peu importe, toujours est-il qu'ils devinrent leur inséparables et il fut bientôt impossible de les voir les uns sans les autres. Julia, naturellement, passa pour l'amant de la jolie comtesse et Robert pour un mari aveugle plutôt que complaisant. Quelques-uns de leurs amis affirmaient cependant que c'était qu'un bruit calomnieux. Mais un événement aussi tragique qu'inattendu allait leur infliger un démenti formel, que l'on est en croix d'appeler sanglant. Le fait est certainement encore présent à votre mémoire. Le 6 janvier dernier, le corps du comte Robert de Roscarvel était trouvé affreusement mutilé sur la voie du chemin de fer entre Cannes et Saint-Raphaël. On crut d'abord à un accident, puis à un suicide. Une première enquête en établit mieux que l'invraisemblance, c'est-à-dire l'impossibilité absolue. La version du crime s'imposait donc. Une nouvelle enquête fut ordonnée. Elle fut confiée à l'un des meilleurs limiers de la Sûreté générale, l'inspecteur Vénared, de la brigade mobile de Marseille. Avec son habileté coutumière, il parvint à établir, avec l'aide des médecins légistes, que Robert de Rosenvel avait été frappé d'abord d'un coup de revolver en plein cœur et que l'assassin avait traîné son corps sur la voie ferrée afin de faire croire qu'il avait été victime d'un accident. Restait à découvrir le coupable. Pour l'habile inspecteur, ce fut un jeu d'enfant. Immédiatement, ses soupçons se portèrent sur celui qui passait à tort ou à raison, mais beaucoup plus à raison qu'à tort, pour être l'amant de la comtesse. N'était-il pas venu demeurer avec les Roscanvel dans la villa que ceux-ci avaient louée sur la côte méditerranéenne, à 500 mètres environ de l'endroit où l'on avait découvert le cadavre de la victime? Autre présomption, un mois auparavant, le comte Robert avait fait un testament par lequel il léguait toute sa fortune à sa femme. Cela constituait des charges troublantes, à coup sûr, mais insuffisantes pour justifier une arrestation. Et ce fut alors que se produisit le coup de théâtre dont vous avez certainement lu le compte-rendu dans les journaux, c'est-à-dire la découverte par Vénared parmi les herbes du talus de la voie ferrée, à 100 mètres de l'endroit du crime, d'un revolver qui avait appartenu à la victime et sur lequel le service anthropométrique découvrit les empreintes digitales de Julien Guéret. Le soir même, le jeune romancier était arrêté. On crut que la comtesse Marie-Thérèse le serait également. Mais le juge d'instruction, n'ayant relevé contre elle aucune trace de collusion avec l'assassin de son mari, elle fut laissée en liberté. Depuis ce temps, Madame de Roscanvel, tout en affectant de pleurer le disparu, n'a pas cessé de tout mettre en œuvre pour faire remettre en liberté l'assassin de son mari, qui, contrairement à toute évidence, n'a pas cessé un instant de jurer qu'il était innocent. Jusqu'ici, elle n'a pas réussi à convaincre et a désormais la justice. Voilà pourquoi elle a jeté son dévolu sur vous, comptant sur les ressources de votre esprit si fertile et sur votre habileté professionnelle pour donner le change à ceux qui ont pour mission de défendre la société contre les malfaiteurs et obtenir aussi la libération de celui qu'elle s'empressera ensuite d'épouser. Monsieur de Shortcock, vous ne nous ferez pas le complice d'une pareille infamie. Vous ne vous laisserez pas séduire par les appels de cette dangereuse et néfaste sirène. Vous laisserez la justice suivre son cours et châtier, ainsi qu'il le mérite, l'abominable meurtrier du malheureux comte de Roscanvel. Confiant dans votre honneur, dans votre probité et dans votre bonne foi, je vous prie d'agréer, monsieur Chandecoq, l'hommage de mon admiration profonde et de ma considération la plus distinguée. Un ami de la victime. Eh bien, mes enfants, Que dites-vous de cette missive? Demandait Chantecoq, sa lecture terminée.
Oh, mon avis, émettait Jacques Bellegarde, est qu'elle est un peu naïve et assez redondante, mais que bien qu'anonyme, elle a été inspirée par un très bon sentiment.
Et toi, Colette?
Oh, moi, père, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. J'ai d'ailleurs suivi avec beaucoup d'attention cette affaire. Pour moi, la culpabilité de Guéret ne fait pas l'ombre d'une doute.
Et vous, Météo?
Le secrétaire du détective se gonfla les joues, ainsi qu'il le faisait chaque fois qu'il avait une phrase importante à proférer. Puis il déclarait
« Cette lettre est évidemment troublante. »
« Alors, mes petits, reprenait le roi des détectives, si vous étiez à ma place, vous ne recevriez pas la comtesse ?» Tous trois eurent un signe affirmatif. Avec un fin sourire, Chantecoq continuait.
« Mais permettez-moi de vous dire que vous auriez le plus grand tort. »«
Et pourquoi ?» questionnait Bellegarde.
« Mais tout simplement parce que Julien Guéret est innocent. »
Colette, Bellegarde et Météore lui-même ne purent réprimer une exclamation de surprise. Avec cette merveilleuse maîtrise de lui-même, que même au cours des situations les plus périlleuses, il gardait toujours intact, le grand limier poursuivait.
Moi aussi, j'ai suivi cette affaire avec un très vif intérêt. J'avais le pressentiment que tôt ou tard, j'y serais mêlé. Et ainsi que d'habitude, cette sorte de prescience des événements que la nature m'a accordée ne m'a pas trompé. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai eu tout de suite l'impression que Vénaren, qui est pourtant un garçon de valeur, s'engageait sur une mauvaise route. Cette histoire de revolver a achevé de renforcer en moi cette opinion. Voyons, réfléchissez un peu. Si vraiment, ainsi qu'on serait en droit de le supposer, et que le prétend Vénared, ce Julien Guéret s'était servi du revolver de Rosvanel pour assassiner ce malheureux. Croyez-vous que, si peu entraîné fût-il dans ce genre de besogne, il aurait été le jeter dans un fourré qui ne pouvait, selon toute vraisemblance et même toute logique, échapper aux investigations de la police?
À vous en concluez donc, intervenait Bellegarde, qu'il a été placé là par quelqu'un.
Oh, vous pouvez dire, précisait Chantecoq, par celui qui m'a écrit cette lettre, c'est-à-dire par le véritable assassin du comte.
Colette et son mari s'écriaient en même temps.
Ce serait formidable.
Quant à Météore, sans même prendre le temps de donner à ses joues en baudruche l'aspect de deux ballons rebondis, il scandait.
Formidable, en effet, formidable.
Mais c'est très simple, au contraire, rectifiait Chantecoq.
D'abord, pourquoi l'auteur de cette lettre, au lieu de confier au papier le soin de me mettre en garde contre les appels de cette soi-disant sirène, n'est-il pas venu me trouver lui-même? Il prétend me bien connaître.
C'est exact, puisqu'il a cru devoir m'adresser un résumé de mon existence.
Il doit donc savoir que je n'ai jamais trahi la confiance de personne, et que ce n'est pas en vain que l'on m'a souvent appelé le tombeau des secrets. S'il était sincère, ainsi qu'il l'affirme, s'il était animé que d'honnêtes intentions, s'il tenait uniquement à ce que le meurtre de Monsieur de Rosvanvel fut vengé, mais pourquoi se cacherait-il ainsi?
Il ne se doute pas, l'imbécile, qui vient de commettre une imprudence qui, dans un temps plus ou moins rapproché, pourrait lui coûter fort cher.
Et s'animant peu à peu, le roi des détectives martela. Allons, l'ère des grandes chasses va recommencer pour moi. Je sens déjà le gibier. Dès demain matin, j'en suis sûr, je serai sur sa trace. Mais Théor, mon garçon, prépare-toi. Nous allons avoir du travail, mais je crois que nous allons bien rire.
Le timbre du vestibule retentissait de nouveau.
Oh, cette fois, c'est elle.
murmura le détective. Et consultant un cartel suspendu au mur, en face de lui, Chandcock observa. 2 heures précises. Oh, elle est d'une exactitude royale. La porte s'ouvrait et Gautret annonçait d'un air mystérieux. La dame est là. Faites-la entrer dans le studio. Gautret s'exécuta. Chandcock, tranquillement, tira les dernières bouffées de sa cigarette. Puis se levant, il dit « Bon, maintenant allons écouter le chant de la sirène. » Après avoir adressé de la main un signe affectueux à sa fille et à son gendre, il regagna son cabinet de travail. Quant à Météor, il avait déjà disparu tel une ombre.